Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine sur le territoire. La Cour suprême des TNO a tranché. 5 familles dont les demandes d'admission aux écoles francophones ont été refusées auront droit à un nouvel examen de leur demande par le ministère de l'Éducation. 165 parents ont récemment répondu à un sondage qui leur a été proposé par le GTNO afin de se prononcer quant à l'admission d'enfants non ayant droit dans les écoles francophones du territoire. Mon collègue Baptiste Foisy nous présente une première analyse des résultats divulgués par le GTNO. Un travailleur albertain est actuellement en auto-isolement à la mine de diamants d'Iavik. Ce pourrait être le 6e cas de COVID-19 à être apparu au TNO. On l'impose de plus en plus dans les grandes villes canadiennes, mais qu'en est-il du port du masque au TNO? L'administratrice en chef de la santé publique était de passage à Radio Taïga pour nous en parler. De récentes statistiques démontrent que plusieurs dizaines de personnes actuellement contraintes à l'auto-isolement après être entrées au TNO ont la permission de le faire dans les collectivités, à l'extérieur des 4 centres désignés. Suite à ce qu'ils considèrent être un manquement de l'Alberta à l'entente sur les eaux transfrontalières entre la province et le territoire, le GTNO souhaite adhérer au comité de contrôle du programme de surveillance des sables bitumineux afin de mieux protéger ces eaux. Mon collègue Denis Laure l'a récemment appris du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Finalement, le gouvernement du Nunavut dévoilait le 24 juillet son plan pour la réouverture à temps plein pour tous les étudiants de toutes les écoles du territoire en septembre. Cinq familles francophones du territoire qui souhaitent inscrire leurs enfants à une école francophone ont gagné leur cause devant la Cour suprême des TNO. Le ministre de l'Éducation, R.J. Simpson, devra réévaluer 6 demandes d'admission aux écoles francophones de Yellowknife et de Hay River. Le juge Paul Rouleau a tranché en faveur de la commission scolaire francophone des TNO et en faveur des parents des 6 élèves non ayant droit de Yellowknife et de Hay River, dont les demandes d'admission avaient été refusées en 2019. L'une de ces familles en était à sa seconde révision judiciaire. Le juge Rouleau a rejeté en bloc les principaux arguments mis de l'avant par l'ancienne ministre de l'Éducation et actuelle première ministre Caroline Cochrane pour justifier le rejet de ces 6 demandes d'admission. Pour justifier ses refus d'accepter ses élèves dans les écoles francophones, le gouvernement plaidait que l'apport de familles francophiles non ayant droit n'était pas nécessaire dans la communauté francophone des TNO compte tenu de la vitalité relative de cette communauté. Selon la preuve présentée, les écoles francophones des TNO auraient accueilli un nombre croissant d'élèves. Or, cet argument serait fondé sur des prémices qui sont fausses ou discutables, selon le juge, qui a déterminé que les chiffres considérés par la ministre ont été artificiellement surestimés pour les dernières années. Le magistrat souligne notamment que l'augmentation des effectifs scolaires plaidée par le gouvernement était en bonne partie attribuable à la mise en place des prêts maternels pour tous, argument qui a donc été rejeté. Le gouvernement soutenait également que l'admission des enfants entraînerait un coût élevé. Selon les calculs gouvernementaux, chaque élève de programme scolaire francophone coûterait en moyenne 2 280 $ de plus par an que ceux des programmes majoritaires de Yellowknife et de Hay River. Un argument qui a également été rejeté par le juge Rouleau, qui estime que la facture totale serait somme toute négligeable. Également, selon l'argument du gouvernement, l'admission de ces 6 non ayant droit pourrait avoir un effet d'entraînement sur les inscriptions futures et créer de l'imprévisibilité budgétaire. Cet argument est également rejeté par le juge Rouleau, qui souligne que les demandes étudiées se distinguaient et ne laissaient pas entrevoir un bond soudain des inscriptions des non ayant droit. La crainte de la ministre de se voir contrainte à exercer sa discrétion dans les cas futurs a été grandement exagérée, tranche le juge. Les enfants concernés par ces demandes de révision sont considérés comme non ayant droit et ils n'entrent pas non plus dans l'une des 3 catégories prévues dans la directive ministérielle sur les inscriptions. Par exemple, né au Canada de parents étrangers, l'un de ses enfants a appris le français à la garderie et maîtrise aujourd'hui mieux cette langue que l'anglais. La demande d'admission de ses parents a été refusée à deux reprises par la ministre. Chacune de ces décisions ont été portées devant la Cour suprême des TNO en 2019, qui a exigé un nouvel examen. À nouveau, la demande avait été rejetée. Si le président de la CSFTNO, Simon Cloutier, se réjouit de ce résultat, il ne feint pas non plus la surprise.
Nous, on est bien contents, mais en même temps, on ne se cachera pas que suite aux audiences, c'était via le déroulement des audiences, c'était la décision à laquelle on s'attendait à recevoir. Mais maintenant, de l'avoir sur papier puis confirmé, c'est sûr que ça nous rend très heureux. Ça revient dans les mains du ministre de l'Éducation, puis nous, on souhaite que cette fois-ci, le ministre rende les bonnes décisions. Puis qui rend ces décisions-là le plus tôt possible.
Cette décision de la Cour suprême des TNO survient quelques semaines après l'abrogation de la directive ministérielle en vertu de laquelle ces révisions étaient effectuées. Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, a promis qu'un nouveau règlement serait en place pour la rentrée 2020. Pour Simon Cloutier, cette récente décision de la Cour suprême des TNO pourrait peser dans la balance et influencer l'élaboration des nouvelles règles.
Le ministère de l'Éducation, à l'époque, au moment où on a pris les décisions d'aller en cours, faisait la sourde oreille, mais le juge est venu confirmer ce que nous on disait, puis ça ajoute, même si on est déjà dans le processus de revoir, de la création d'un nouveau règlement, ça vient quand même ajouter du poids dans nos arguments en disant le juge, c'est pour ça qu'on le change, c'est pour ça qu'on veut le changer, puis c'est pour ça que c'est important qu'on travaille ensemble pour s'assurer qu'on va avoir quelque chose qui va fonctionner pour les deux parties, pour éviter des situations comme on a vécu dans les dernières années.
Radio Taïga a sollicité les commentaires de la première ministre Caroline Cochrane, interpellée dans la décision, et ceux du ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson. Au moment d'enregistrer cette émission, un entretien avec l'une ou l'autre n'avait pu être confirmé. Malgré des consultations lancées précipitamment cet été, plusieurs dizaines de résidents des TNO, dont une majorité d'ayant droit à l'éducation dans la langue de la minorité, ont répondu à une enquête en vue de la rédaction du nouveau règlement sur les admissions scolaires dans les écoles francophones. Mon collègue Baptiste Foisy est avec nous pour nous en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Donc Baptiste, c'est quand même 165 parents qui ont répondu au sondage. Vous avez reçu les résultats?
Oui, tout d'abord, on n'a pas reçu les résultats. On a fait la demande pour obtenir les résultats, c'est-à-dire les données de sondage. Ce que nous avons obtenu, c'est plutôt une analyse de ces données par le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation. Ça révèle quand même des données intéressantes. D'abord, le nombre de gens qui ont répondu au sondage, 165, comme vous le disiez, Thomas, c'est relativement élevé, là, compte tenu là, des modalités dans lesquelles ce sondage-là a été effectué. On se rappelle là, que le gouvernement, à la fin juin, a annoncé qu'il abrogeait la directive ministérielle sur l'admission. Ça n'a pas fait ni une ni deux qu'on a lancé ce sondage immédiatement après. C'était au début juillet, les gens avaient du 7 au 13 juillet pour répondre sur une base volontaire aux questions étaient soumises.
En pleine période de vacances, là, ce qui est pas peu dire aussi.
Oui, ben c'est ça. On voit que les gens étaient interpellés par la question parce qu'ils ont répondu quand même nombreux, là, 165, dont une majorité parmi eux sont des ayants droit, c'est-à-dire essentiellement des parents francophones.
Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces analyses de résultats?
Bon, la question, disons, la plus brûlante du sondage, c'était est-ce qu'on est en faveur ou non à l'idée d'élargir les critères d'admission pour permettre l'admission de non-ayants droit, de familles qui n'ont pas le français comme langue maternelle essentiellement. C'est un peu plus compliqué que ça, là, mais disons, on va le dire de cette manière-là. Les réponses sont partagées. 50% des répondants se disent oui en faveur de l'élargissement de ces critères d'admission. Faudrait pas conclure que ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont contre, par contre, oui. Parce qu'il y a une ventilation plus compliquée là, que ça. On note qu'il y a 11% des répondants au sondage qui affirment que l'école francophone ne devrait être accessible exclusivement qu'aux ayants droit. Ça, c'est des critères qui seraient en fait plus restrictifs que ce qui existe présentement. Et il y a un autre 10% qui pense qu'on pourrait laisser des ayants droit avoir accès à l'école francophone, mais qu'il faudrait que ce soit seulement des familles où parents et enfants parlent le français et qu'ils parlent le français à la maison.
D'accord. Les résultats du sondage donnent aussi un aperçu de ce qui motive les parents du territoire à envoyer leurs enfants dans une école francophone. Donc, pourquoi l'école en français?
Ben, les réponses vont varier dépendamment qui a répondu au sondage. Là, si on y va là, avec les chiffres qui nous sont communiqués, pour les ayants droit et également on inclut là-dedans là, les non-ayants droit admissibles, là, je viens de vous l'expliquer, les gens qui... La raison d'aller à l'école en français ou d'envoyer leurs enfants à l'école en français, c'est d'abord et avant tout la langue. Puisque les enfants, leur langue maternelle, c'est le français, on souhaite qu'ils reçoivent leur instruction dans cette langue-là. Ça, c'est 67% des répondants ayant droit qui disent ça. Pour 38% des répondants ayant droit, le lien avec la communauté francophone est également évoqué. On parlera également dans une proportion d'à peu près un tiers de la transmission de la culture francophone. Il y a quand même un 22% des répondants ayant droit qui répondent que leur choix de l'école francophone, c'est pour que leurs enfants apprennent le français en tant que langue seconde. Mais non, c'est un petit pourcentage. Du côté des répondants qui sont des non-ayants droit, et qui sont probablement des gens qui ne sont pas admissibles en ce moment à l'école francophone, la motivation est bien différente. 60% indiquent que c'est pour encourager le bilinguisme ou le multilinguisme de leurs enfants, qu'ils voudraient envoyer leurs enfants dans de tels programmes. Il y a tout de même un 10% de non-ayants droit qui signifie, et ça c'est très intéressant, qu'eux, ils voudraient envoyer leurs enfants à l'école francophone parce que le français est la langue que comprennent le mieux leurs enfants. Et donc, ce qui laisse supposer que ce serait du monde qui probablement devrait se retrouver là, dans les classes francophones si les critères n'étaient pas aussi strictement appliqués.
Parfait. Ben, Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Merci Thomas.
En date du 28 juillet, moment où le GTNO divulguait certaines statistiques sur l'application des règles de santé publique, 86 des 1165 personnes alors en auto-isolement au TNO, soit 6,5%, effectuaient leur quarantaine en dehors des quatre centres régionaux désignés par la santé publique. Une semaine plus tôt, on en dénombrait 95. Dans de rares cas, des permissions sont accordées pour motif de compassion, comme l'explique le porte-parole de la santé publique Mike Westwick, joint par courriel. On parle de cas tels que des personnes mineures non accompagnées, des membres d'une famille atteints d'une maladie en phase terminale, ou d'autres cas semblables. Monsieur Westwick ajoute que ces permissions sont d'abord étudiées par un groupe de professionnels de la santé, et ce, en avisant les dirigeants des collectivités concernées des risques potentiels associés à chaque cas. La vaste majorité des personnes isolées en dehors des centres désignés sont toutefois des travailleurs essentiels, comme des infirmières, des médecins, des travailleurs d'infrastructure et autres travailleurs essentiels, qui ont reçu une permission afin de desservir les collectivités ou des projets pour lesquels ils ont été embauchés. En temps normal, toute personne ayant quitté le territoire doit, à son retour, faire sa période d'auto-isolement à Yellowknife, à Inuvik, à Hay River ou à Fort Smith. On apprenait également qu'en date du 28 juillet, 8 constats d'infraction d'un montant de 1 725 $ avaient jusqu'alors été distribués depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, chacun d'entre eux étant relié aux règles d'auto-isolement ou de restriction de déplacement. 3 de ces constats d'infraction ont été remis à des non-résidents et 4 à des citoyens des TNO. L'origine de la 8e personne mise à l'amende n'est pas divulguée. Depuis la mise en place des lois spéciales, les agents affectés à l'application des règles ont émis un total de 176 avertissements, verbaux et écrits. Michael Harrison, un résident du Date Show que l'administratrice en chef de la santé publique avait blâmé en mars par communiqué de presse pour avoir peut-être refusé de s'isoler dans l'un des 4 centres régionaux désignés, ne fait pas partie des personnes ayant reçu une contravention. Comme nous l'a indiqué Mike Westwick, cette enquête se poursuit. Un nouveau cas de COVID-19 pourrait avoir fait son apparition au TNO, cette fois-ci à la mine de diamants d'Iavik. Un travailleur albertain a reçu un premier résultat positif après avoir été testé par le système de dépistage de la mine, un protocole imposé à tous les travailleurs. Pour l'instant, il s'agit d'un cas présumé. Il n'est pas confirmé que ce travailleur soit atteint de la COVID-19. D'autres tests seront effectués puis validés au laboratoire provincial de l'Alberta en collaboration avec la santé publique des TNO. Le travailleur ne présente aucun symptôme et est présentement en auto-isolement dans un site consacré de l'entreprise. Selon le bureau de l'administratrice en chef de la santé publique, les contacts avec la personne présumément atteinte ont été minimisés grâce aux précautions mises en place dans les vols NOLISÉ qui se rendent directement de l'Alberta vers le site d'accueil des travailleurs. Le port du masque est obligatoire dans les avions et dans les autobus menant au site. La première ministre Caroline Cochrane a émis le jour même de cette annonce un message vidéo sur la page Facebook du service de communication du GTNO. À ses yeux, la situation est sous contrôle et ne pose aucun risque pour les collectivités des TNO.
Because of these precautions, I'm confident in the public health officer's early assessment that no additional contacts are expected in the Northwest Territories, although of course the case investigation will continue.
La première ministre se dit confiante qu'en regard des précautions prises par la mine, la personne n'a été en contact avec aucune autre personne que celles qui ont été repérées jusqu'à présent. L'enquête se poursuit tout de même.
Though our system this time seems to have worked, this is a good reminder for residents that we all need to be alert because this pandemic is far from over.
Bien que cette fois-ci le système semble avoir fonctionné, poursuit Caroline Cochrane, cette situation peut rappeler aux résidents qu'il importe de demeurer aux aguets puisque cette pandémie est loin d'être terminée. Trois cas semblables ont été enregistrés au Nunavut à la mine Mary River de Baffinland en juillet. Les travailleurs ont reçu de premiers résultats positifs avec le système de dépistage de la mine. Toutefois, des tests plus poussés, dont les prélèvements ont été analysés dans un laboratoire d'Ontario, ont finalement affiché des résultats négatifs. Face à une recrudescence des cas de COVID-19 dans le monde et au Canada, plusieurs grandes villes canadiennes imposent désormais le masque dans les lieux publics intérieurs. Cette pratique n'est toujours pas obligatoire au territoire du Nord-Ouest pour le public, mais le gouvernement serait disposé à l'imposer dans certains établissements, advenant une augmentation importante des risques sur le territoire. En entrevue à Radio Taïga, l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Camille Candola, a vanté l'efficacité d'une telle mesure pour éviter une propagation dans le contexte d'une éventuelle seconde vague au pays.
Right now, it's still a recommendation, but in the fall, if we have a big second wave or we get lots of community transmission, this is like mandatory masks in the indoor public spaces. This is going to be a really good intervention, especially when we get more and more people come in across the border with a higher risk of having COVID if we have a second wave across Canada.
La docteure Camille Candola indique ici que cet automne, au moment où la pandémie pourrait connaître une importante seconde vague, ou si on devait observer une transmission communautaire importante sur le territoire, une obligation de porter le masque dans les lieux publics intérieurs serait une excellente solution, spécialement au moment où un nombre croissant de personnes provenant d'autres provinces et ayant plus de risques d'être atteintes traverseront les frontières. À l'heure actuelle, la docteure Candola convient qu'un sentiment de sécurité habite la population ténoise.
Right now, it's still a recommendation, but in the fall, if we have a big second wave or we get lots of community transmission, this is like mandatory masks in the indoor public spaces. This is going to be a really good intervention, especially when we get more and more people come in across the border with a higher risk of having COVID if we have a second wave across Canada.
La Dr Camille Candola affirme qu'avec les restrictions imposées aux frontières, les gens se sentent relativement en sécurité au TNO. Elle observe elle-même voir davantage de personnes âgées porter le masque, en plus des employés de certains commerces qui doivent obligatoirement porter le masque. Et selon elle, les résidents des TNO en général devraient porter davantage le masque. L'abandon momentané des contrôles environnementaux dans les sables bitumineux a hérissé le gouvernement des TNO qui tente de faire respecter les ententes sur les eaux transfrontalières. Mon collègue Denis Laure est avec nous pour nous en parler. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Denis, vous avez signé un article dans le journal L'Aquilon. Je cite votre titre. Les TNO veulent plus d'autorité sur le contrôle des eaux. Tout ça, c'est à la suite d'une brèche du côté du gouvernement albertain au printemps dernier.
Oui, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a demandé à faire partie du comité de contrôle du programme de surveillance des sables bitumineux pour avoir plus de contrôle sur la partie de son bassin versant qui provient de l'Alberta. Donc, ce comité de contrôle-là, il est co-présidé par le sous-ministre adjoint d'Environnement et Changement climatique Canada et par le ministre d'Environnement et Parcs Alberta. Puis, le but de ce comité-là, donc, c'est de faire du repérage d'impacts environnementaux, évaluer les effets cumulatifs du développement des sables bitumineux. Il y a une représentation des Autochtones et des Métis sur ce comité-là. Et donc, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a aussi demandé à faire partie du comité de surveillance des eaux de ce programme-là, qui bizarrement est présentement en arrêt. J'ai pas réussi à avoir de réponse du gouvernement de l'Alberta ni du gouvernement fédéral pour savoir comment on évaluait la demande du ministère de l'Environnement et Ressources naturelles des territoires du Nord-Ouest.
D'autant plus que les TNO disent avoir les outils pour pouvoir faire leur part. Mais avant, Denis, vous pouvez nous expliquer ce qui a provoqué cette récente réaction du GTNO?
Oui. Donc, il y a eu une brèche apparemment dans l'entente bilatérale sur les eaux transfrontalières entre l'Alberta et le territoire du Nord-Ouest. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 97, on a essayé de mettre au point un système de contrôle des eaux du bassin versant du Mackenzie. Donc, ce système-là qu'on doit comprendre quand il va être achevé, et c'est très long, on est déjà à 23 ans de travail sur ça, doit comprendre des ententes qui impliquent le Yukon, la Colombie-Britannique, l'Alberta, les territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan. Donc, toutes ces provinces, ces territoires-là doivent signer avec leurs voisins des ententes qui portent sur le débit de l'eau, sur la nature de l'eau, donc essayer de limiter, par exemple, les apports, je donne ça comme exemple, de phosphore ou de magnésium, etc. Ça porte aussi sur les cours d'eau qui sont identifiés comme des tributaires importants du bassin versant. Or, en 2015, l'Alberta et les territoires du Nord-Ouest ont signé une entente, et cette entente-là dit que les territoires du Nord-Ouest, ou que les deux signataires, doivent être avertis de changements dans les activités de surveillance des eaux, ce qu'on appelle en anglais du monitoring. Ça n'a pas été fait. Il y a eu deux arrêtés ministériels en Alberta en avril qui ont fait qu'on a arrêté différentes activités qui étaient liées à la loi sur les eaux, la loi sur l'amélioration de l'environnement, etc. Ça a été repris le 15 juillet, mais apparemment le gouvernement des territoires du Nord-Ouest n'a pas été averti et ses sens a déclaré, selon M. Shane Thompson, il y a eu une brèche dans cette entente-là bilatérale.
Je le mentionnais, le ministère aurait les outils pour pallier aux données manquantes du côté de l'Alberta.
Tous les outils, je pense qu'il n'y aurait pas à se plaindre qu'il y ait une brèche dans l'entente, mais apparemment, selon une communication qu'on a eue avec M. Shane Thompson, qui est le ministre d'Environnement et Ressources naturelles des territoires du Nord-Ouest, on a accru les programmes de surveillance des eaux depuis un bout de temps. Il y a eu un système de suivi de l'eau qui a été mis en place à Fort Smith début mars. Ça, c'était à cause, tu vois, comme tout est lié d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre, il y avait mis en place un système de suivi de l'eau à cause supposément d'inquiétude sur le niveau de l'eau et des inondations à Fort McMurray. Donc, est-ce qu'il y a un impact, ce qui se passe en amont, un impact en aval? Et puis, bref, il y a aussi un programme qui va être mis en place pour programme de surveillance biologique, on me dit, sur la rivière des Esclaves et la Hay River dans les semaines qui s'en viennent.
Et dans tous les cas, Denis, il n'y a pas que le GTNO que ça préoccupe. On s'est également prononcé du côté de certaines collectivités, là, dont la nation Dene.
Le grand chef des Dene, Norman Yakalea, a fait une conférence de presse récemment où il a employé des mots très durs face au gouvernement de l'Alberta et face au gouvernement fédéral, parce que le programme de surveillance des sables bitumineux est, d'après ce que j'ai compris, est arrêté, lui, alors que les autres programmes ont repris en Alberta. Si vous voulez, on écoute M. Yakalea.
Well, the Alberta government has broken the agreement. They have suspended the environmental monitoring. They clearly show the lack of respect for the indigenous people and the people in the Northwest Territories.
Donc, M. Yakalea, le chef national des Dénés, qui dit que le gouvernement de l'Alberta a brisé l'entente en suspendant la surveillance environnementale et que c'est un manque de respect aux Autochtones et aux gens des territoires du Nord-Ouest. Selon lui, la crise du COVID-19 est une excuse et il s'est déclaré très déçu de l'attitude du gouvernement de M. Kenney.
Parfait. Bien, pour les détails, on vous rappelle, c'est dans la dernière édition du journal L'Aquilon. Denis Laure, merci beaucoup.
Merci Thomas, bonjour à tout le monde.
Le territoire Nunavoie n'ayant jusqu'à maintenant eu aucun cas de COVID-19, toutes les écoles ouvriront normalement leurs portes à la rentrée scolaire à temps plein, 5 jours semaine et pour tous les étudiants. Le gouvernement du Nunavut a publié le 24 juillet son plan officiel de réouverture des écoles. Ce plan prévoit notamment que les directions des commissions scolaires détermineront quels sports et autres activités parascolaires prendront place à l'ouverture des écoles, et ce, sous les directives de l'administrateur en chef de la santé publique. Selon le plan, les cours d'éducation physique et les assemblées scolaires seront limités. Les étudiants pourront prendre leur repas dans les aires communes, mais n'auront pas la permission de partager leur nourriture ni leur boisson. Des nettoyages rehaussés seront assurés et les contacts physiques seront évités autant que possible. Les programmes de petit déjeuner seront également reconduits normalement, comme l'a confirmé le docteur, l'administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, le docteur Michael Patterson. Différents niveaux de restrictions sont prévus pour les écoles selon le niveau de risque sur le territoire. À l'heure actuelle, sur 4 niveaux de risque possibles, le Nunavut en est au niveau 1, avec aucun cas de COVID-19. Au niveau 2 et 3, certains étudiants apprendront à partir de la maison et d'autres à partir de l'école. Si le territoire devait atteindre le niveau 4, les écoles seront fermées à nouveau. Chaque région et collectivité du territoire peut se trouver à un niveau de risque différent dépendant de la présence de COVID-19 ou du risque de transmission dans ce secteur. On cherche ainsi, comme l'explique le ministre de l'Éducation du Nunavut, David Joannessy, à ce que les étudiants puissent poursuivre leur apprentissage et à ce que les enseignants puissent continuer à enseigner, peu importe le niveau de risque dans lequel se trouve la collectivité. Cet automne, même si les écoles doivent fermer, le travail des étudiants à la maison sera évalué. Au printemps dernier, à la fermeture des écoles, les enseignants ont créé des trousses d'apprentissage pour permettre aux élèves de terminer leur année scolaire à la maison. Toutefois, ces derniers n'étaient pas évalués sur leur travail, puisqu'on jugeait qu'ils n'avaient pas tous le même niveau d'appui à la maison. Comme l'explique le ministre Joannessy, les enseignants détermineront quels élèves ont besoin davantage d'aide en fonction de la situation à la maison et seront aidés autant que possible. Le ministre a indiqué que son ministère développe des lignes directrices pour le personnel sur les évaluations de perte d'apprentissage, sur l'apprentissage de rattrapage et sur les techniques d'enseignement dans un environnement mixte qui inclut l'école à la maison. Le ministère de l'Éducation explore également des options pour permettre à tous les étudiants d'accéder à des ressources en ligne si l'apprentissage doit se faire à la maison. On apprenait également qu'il y a actuellement 2 fois moins de postes d'enseignants vacants que l'an dernier au Nunavut. Le ministre Joannessy a souligné qu'environ 30 postes sont à combler. On en dénombrait l'an dernier 74 à pareille date. COVID-19 n'aurait donc pas eu d'influence sur le recrutement du personnel d'enseignement, selon le ministre. Voilà, c'est tout pour Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez bien du long week-end.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.